Yannick Morgan, Gavignon, Guillermo, fils de la Pampa, Tanguy Pasturo, Daniel Morin, Evelyne Wiggs et Pierre Arditi. J'ai presque envie de rajouter Salomé Lelouch parce qu'elle est l'auteur de cette pièce tellement bien écrite. Alors elle est pas
tellement
notre...
drôle.
Elle est voilà, très drôle. Elle est pas notre invitée, elle n'est pas là, mais ses parents sont là pour en parler et surtout ils la portent. Cette pièce, fallait pas le dire. Donc qu'est-ce qu'on peut bien faire comme blind test?
Je crois que c'est Morgane.
Non,
c'est Guy.
Serge Gainsbourg.
Fou, c'est Leïla.
Non, c'est dingue, c'est Daniel.
C'est ouf. Non, c'est toi,
Dadjou.
C'est moi.
C'est Guy, c'est la régie. La régie est définitive, c'est Guy.
Mais la régie est bourrée.
La régie est belle, excusez-moi.
Si vous voulez parler de quelqu'un de bourré, il faut tout de suite évoquer le week-end que vient de passer Guillermo.
Qui se voit très fort sur mes yeux.
Ah oui, c'est incroyable.
Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans un guet-apens?
Il a une tête de murge.
Énorme. Oui, c'est vraiment tête de murge.
T'as la tête de murge. La tête de murge.
Allez. Il a encore une canette. Ceci dit, j'ai gagné le premier point avec ma tête de murge.
Regarde, il n'y a même pas à le dire.
Il faut te masser le visage pour relancer la circulation.
Faut masser. Demande à une professionnelle des murges ce qu'il faut faire.
Oui.
Attention, qui chante ça?
Daniel.
Guy.
Guy.
Non, Daniel.
Sous aucun prétexte, Françoise Hardy.
Ah, dire, il y a tout le temps de
dire. Sous aucun prétexte, c'est le début, mais c'est comment te dire adieu.
Avec Guy, a compris le thème du blind test. J'ai senti la lumière s'allumer chez toi.
Fallait pas le dire. Peut-être qu'il y a dire dans le titre.
Wow, on est dans les années 80, 90,
90.
Ça sent la chanteuse à voix, là.
Non. Faut donner son prénom avant de dire.
Daniel, Mylène Farmer?
Non.
Non.
Plus que tout. Guy
Morgan.
Guy.
Lara Fabian?
Oui. C'est ta Belgitude qui ressort.
Franchement, il y a des trucs que j'ai pas trouvé et j'ai trouvé Lara Fabian. Ça pose question.
Ça pose aucune question. Tu aimes Lara Fabian?
Je connais pas ce titre en plus.
Mais c'est un homme de goût.
Je me suis dit, l'intro ressemblait à Lara Fabian.
Écoute. Bien fort. Ah, c'est beau. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, nous recevons Evelyn Wiggs et Pierre Arditi pour la pièce Fallait pas le.
Oh, je me demandais où il allait.
C'est parce qu'elle est belge en fait.
Non, parce qu'elle vient de dire tout simplement.
Elle est belge.
Talentueuse.
Plus pointu.
Je me dis. Leïla
Morgan, Zazie.
Que c'est vrai. Leïla,
je suis déchiré là.
Leïla, non, j'ai dit Leïla.
Non, c'est Leïla.
Ah oui, j'ai dit Leïla. De moi.
Ok, ok.
Et t'as donné la réponse.
C'est Zazie, ouais. Hein? Ouais, t'as donné la réponse. Ouais.
Non, t'as dit ton nom en premier, mais.
Ouais, j'ai dit Leïla Zazie.
Leïla Zazie.
Oui, ouais. Leïla.
Ah, enchanté.
Ah,
non,
oui.
C'est ça.
Ah, ouais.
Zazie, bien joué. Et ça s'appelle Dire ce qu'on danse. Qui chante ça? C'est plus facile.
Morgan, Francis Cabrel.
Joli.
Oh, oh, oui,
ah ouais. Ah,
très bien joué.
Ah c'est bon ça.
Pour moins de vie.
Attention, donnez-moi votre prénom avant la réponse.
De l'arme.
Oh Daniel, je suis venu te dire que je m'en vais.
Oh, ah oui. Juste sur ça?
Ah oui.
Wow.
Je voulais te dire.
Non, c'est pas du tout la même chose.
Il a pas dit le nom de la personne. En plus, non, il a donné une mauvaise.
Il a dit, je suis venu te dire que je m'en vais.
Ouais, non, je me suis trompé, pardon.
Non, mais c'est le.
Alors que
c'est
un, je voulais te dire que j'attends.
J'avais reconnu Jonas, mais je me suis trompé de titre.
Donc, Leïla, Jonas, parce que personne n'a dit son prénom.
Non.
Ah bah, Michel. Jonas n'est pas un prénom si on veut aller dans la mauvaise voie.
Ah bah, c'est lundi pour tout le monde, apparemment.
Ah, mais quelle bande de chiens.
Mais ouais.
Mais vous êtes.
Vous êtes vilain avec moi.
Vous êtes des ordures.
Alors.
Daniel, tu as le point.
Oh, merci, Nicky.
Pardon, il a pas le titre. Ah, bah, Morgane Dadjou. Alors,
ah ouais, on y
dans
va,
ce cas-là.
Merci,
c'est un vide-grenier.
Franchement, et donner ce point à Daniel dans ces circonstances.
C'est juste une confusion.
Moi, je m'en vais. Voilà.
Attention, tout se joue maintenant. Pour l'instant, 2 points pour Daniel, 2 points pour Guillermo, 1 pour Leïla, 1 pour Morgane. Ça rapporte 3 points.
Aïe.
Et il y a dire.
Guy Dire Straight, mais voilà, merci.
Mais
allez,
non.
C'est
Dire Straight. Oh, bien
ouais. C'est Sultan of Swings et moi j'attendais Bébé Brune.
Non. C'est Dire Straits.
Bien joué.
Oh putain, c'est juste un jeu de mots.
Bravo.
Excellent. Il avait même pas.
Il est beaucoup trop. Il est vraiment beaucoup trop fort.
Toi, t'as vraiment beaucoup.
Mais c'est ma chanson.
Victoire. Ouais, c'est ton titre. Victoire de Guillermo. Comme quoi, et Murger, tu t'en sors bien quand même.
Ou pas, finalement.
Comme quoi.
On va faire ça plus souvent.
Ça fait deux. Ça fait deux victoires dans l'histoire de ta vie. Finalement. Merci d'accueillir Evelyne Bouygues et Biarritz.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Soyez les bienvenus. Depuis le 24 septembre dernier, c'est-à-dire une semaine, vous jouez, et ce jusqu'au 2 janvier. Vous êtes sur scène ensemble pour Fallait pas le dire, cette pièce écrite sur mesure par Salomé Lelouch. J'ai presque dit, il faudrait qu'elle soit invitée aussi, enfin j'ai même carrément dit, il faudrait qu'elle soit invitée et la saluer, parce que quelle plume, quelle écriture. J'ai ri comme rarement, parce que ça n'arrête pas, ça va très très vite. Je sais pas si on peut dire, d'ailleurs, c'est une pièce, ce sont des scénettes, en fait, il y a des enchaînements, c'est pas une seule et unique histoire, ce sont différents prismes, différents moments de la vie où votre mari, Evelyne, vous reproche d'être sans filtre.
De tout dire
et de le mettre dans des situations gênantes, embarrassantes. Et on va dire quoi, je sais pas comment le qualifier, Pierre Didier.
C'est effrayant. Et le mec est censé faire la promotion du spectacle. C'est effrayant, ça fout la trouille.
Mais non, mais parce que il y a des moments où vous êtes d'une hypocrisie,
et d'une mauvaise foi.
Mais bien, c'est mon meilleur compartiment de jeu.
Oui, la mauvaise foi, c'est vrai.
C'est mon meilleur compartiment de jeu.
Oui, mais il y a des nuances. Vous n'êtes pas que de mauvaise foi.
Non, pas que.
Elle a raison.
Absolument. Ça fait 35 ans qu'on répète la pièce, alors on est prêt.
Quel courage.
J'imagine, c'est ça. Comment avez-vous réagi la première fois où vous avez lu peut-être une version 1 de cette pièce avant qu'elle le soit relue et corrigée par Salomé elle-même?
Tout de suite, j'ai été bluffée en fait, parce que c'était tellement en même temps nous et en même temps décalé, en même temps transposé, parce que c'est avant tout du théâtre, mais en même temps on s'est reconnus, et quand elle a proposé des choses par rapport, les gens qui ont pas eu le spectacle, la gauche ou la chirurgie esthétique, il y a des trucs très très particuliers, elle a dit bon, vous y allez, vous y allez pas, et on a tellement aimé le texte, on a dit banco pour tout, ça nous a fait rigoler et on était très 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 fiers d'elle.
Ça vous pouvez, parce que cette pièce est formidable.
On avait envie de dire ces mots en fait.
Mais est-ce que il y a quand même une dose d'autodérision dans cette pièce, et se moquer de soi, de son couple, par le prisme de votre fille que vous avez élevée, Pierre, c'est pour ça que je me permets de dire votre fille, d'autant que elle, dans une interview, dédie cette pièce à mes parents. Donc
voilà, c'est très gentil de sa part. Enfin, je ne suis pas son père.
Je sais, mais en tout cas,
j'ai élevé, oui.
Elle dit j'écris cette pièce pour mes parents. Oui. Donc je reprends de sa bouche cette formule. Une fois que ceci étant dit, elle vous connaît extrêmement bien. Accepter cette autodérision en rire.
Évidemment. Si on n'est pas capable de se foutre de sa propre gueule, c'est pas la peine de commencer à faire ce métier-là, ça n'a pas de sens. Évidemment, et ce qui est délicieux, et ce qui est d'ailleurs d'une grande perversité, c'est que c'est à la fois nous et pas nous. C'est-à-dire qu'elle se sert de notre caractériologie, celle d'Evelyne et la mienne, alors ce côté...
Comme point de départ, en fait.
Oui, comme point de départ. Et puis ensuite, elle nous met sur le dos un certain nombre de choses qu'elle a, elle, envie de dire. Alors... Quand elle me fait parler de la gauche, évidemment, elle se fout de moi. Parce que, effectivement, il y a des zones troubles chez moi, c'est vrai.
Des zones grises. Voire transparentes, on est de mauvaise foi.
Et quand Evelyne parle de la chirurgie esthétique, là aussi, il y a des points comme ça, un peu litigieux. Mais c'est ça le plaisir. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens... qui voient le spectacle maintenant, on a les réactions qui sont formidables d'ailleurs. Ils disent à la fois, on a l'impression d'être, ils ont l'impression d'être dans notre cuisine, je veux dire. Et puis en même temps, ils ont bien conscience que on raconte des choses qui ne sont pas forcément les nôtres, mais on les raconte avec ce que nous sommes.
Et en même temps, vous réglez des comptes aussi à toutes, soit des rumeurs, soit des pour la chirurgie esthétique ou pour le vote politique. Je n'ai pas voté à droite,
pas parce que j'ai voté à droite une fois que je ne suis plus de gauche.
C'est tellement drôle, mais c'est
une mentalité d'homme de gauche, même quand je vote à droite.
C'est pas moi qui me suis perdu, c'est la gauche.
Oui.
Moi,
je reste. C'est la gauche qui a changé, c'est pas ça. Moi.
C'est ça.
Non mais bon, c'est très bien, c'est formidable. Mais,
oui, voilà, ça vous permet aussi de régler, de clouer le bec finalement aux mauvaises langues, celles qui parlent dans votre dos sans
clouer sans le bec. Je ne sais pas, mais ça permet d'aborder un certain nombre de choses, justement, alors pour le coup, sans filtre. Et en tout cas, voilà. C'est-à-dire que l'esprit de sérieux, ce qu'on peut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faudrait pas dire, parce que tout d'un coup, c'est politiquement incorrect, citer d'ailleurs un autre texte qu'elle a écrit qui était formidable. Non, on le fait. On le fait, on s'en moque. On le critique, on le met sur la place publique, et puis après on voit comment les gens réagissent avec ça, ils en rient pas.
Et c'est le personnage de Lynn qui est... Bien,
exactement.
Et c'est jubilatoire même en fait de dire ces mots. Vraiment, c'est... on aime ça, quoi.
Est-ce que vous êtes vraiment sans filtre, Evelyne? Parce que si, parce que on est bien d'accord, ce n'est pas totalement vous, cette pièce, non. Mais on a dit qu'il y avait des points de départ. Et le point de départ,
Est-ce que ce gâteau, c'est le titre, fallait pas le dire.
Est-ce que ce gâteau était vraiment sec?
Il était franchement dégueulasse.
Alors, il faut préciser pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, c'est que le point de départ, c'est un couple qui revient on imagine un déjeuner régulièrement organisé avec, votre belle-mère, Evelyne, et vous avez dit que le gâteau n'était pas bon. Vous avez dit qu'il était sec.
Je ne serais pas permis.
Et la phrase de votre mari, c'est de dire peut-être que tu as dit sec. Elle a entendu. Il n'est pas bon.
Si
elle a entendu, c'est que tu l'as dit. C'est-à-dire que cette espèce d'enchaînement d'idées,
c'est tellement drôle.
C'est tellement drôle. Donc ce point de départ, dites-moi, êtes-vous sans filtre ou pas?
Alors, par moments, oui, je peux l'être. Et puis, il y a des moments, non, je ferme ma gueule, en fait. Et puis, il y a des fois,
Vous savez être diplomate.
Oui, mais souvent, je dis quand même ce que je pense, quoi.
Oui, enfin. Souvent. Ah, déjà, non, ça commence,
la
ça recommence.
Personne la plus sans filtre, en fait, dans l'histoire, c'est Salomé.
Elle n'en a aucun.
Donc, c'est avant tout elle.
Déjà, elle n'en a aucun avec vous. C'est-à-dire que la manière dont elle vous caricature, la manière dont elle vous voit et l'image qu'elle vous renvoie, elle est sans filtre.
Ouais. Mais moi, ça me plaît, quoi. Ça me fait...
Voilà. Mais elle est tendre, hein. Elle est tendre avec nous. Hein.
Elle est tendre.
Elle se fout de nous, mais elle est tendre. Hein.
Oui, elle est tendre. Elle est tendre.
Oui, elle est tendre.
C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, quand même, elle est allée regarder dans votre historique.
Elle se marre énormément, mais en même temps, ils sont tous gênés.
Elle est allée regarder dans votre historique
Oui. Mais on se laisse volontiers fouiller l'historique.
Oh, joli.
Oui. Oh, bah.
C'est un titre, vous savez.
Non.
Mais la tête de Pierre Arditi, quand il ouvre la porte au plombier, j'en dis pas plus. La présentation du plombier.
Madame le plombier.
Oui, madame. Oh là là.
Madame la Bitbol.
Avec le twist au moment où le plombier repart. Ça, c'est, non, c'est extrêmement drôle. On parlera également de la mise en scène parce qu'elle est originale. Cette mise en scène, elle est évolutive et elle permet d'avoir cette espèce de fluidité dans la narration. Oui, ce sont des scénettes et on a l'impression qu'on assiste finalement, peut-être pas vraiment sur un long fleuve tranquille, mais en tout cas qu'on assiste à quelque chose de très, très
tranquille.
Voilà,
ouais.
Exactement. De très fluide. De très clair, sobre comme le décor, mais en même temps avec des évolutions qui peuvent vous permettre de vous retrouver au lit, dans le salon, dans la cuisine.
En voiture.
C'est très intelligent.
En trottinette.
Avec un changement de volant.
La trottinette. Ça, on sent que vous n'avez pas voté Anne Hidalgo. Hein. On sent dans le message que...
Eh bien, détrompez-vous. J'ai voté Anne Hidalgo malgré la trottinette.
C'est ça, j'attendais la chute. Nous sommes ravis de vous accueillir. Pierre Arditi pour cette pièce qui a lieu au Théâtre de la Renaissance. J'ai oublié de le préciser. Nous sommes ravis. Ouais. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Cadignan qui ne vous aime pas. Mais pas du tout. À se demander si elle n'est pas copine avec Salomé tellement elle ne vous aime pas.
Pierre Arditi, Evelyne Bouygues, je ne vous aime pas. Pierre Arditi, j'ai des collègues qui ont déjà été face à vous en chronique dans cette émission même et ils m'ont dit le plus grand bien de ce moment. Non, je déconne. J'ai peur. Je vais donc essayer d'éviter votre regard. En même temps, ne me cherchez pas, Pierre, parce que j'ai vu votre date de naissance dans votre bio et vous n'êtes pas encore assez vieux pour que je vous frappe pas. Donc, je préférerais ne pas en arriver là. Donc, je vais parler très vite et éviter de vous regarder, tout simplement. Moi, je suis dans l'évitement hein, maintenant. Les amis, l'affrontement, c'était l'année dernière. La Morgane de 2021, elle fuit du verbe fuir, partir. Hein. Sortez pas les serpillères. Pas que avec vous, Pierre. Je fuis tout le temps avec ma famille, avec mes amis. Je fuis avec mes amants. Mes amants. Genre, calme-toi, meuf. C'est juste une bouillotte sur laquelle t'as enfilé un pull Nike et que t'appelles Guillermo. C'est pas mon
nom. Non,
mais je fuis. Fuis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis aussi. Parfois, t'as l'impression que je te fais face. Je suis déjà en train de me casser en moonwalk. Franchement, le temps qu'on gagne à pas assumer ses actes, pendant que t'es pas là en train d'avoir la tête haute face à l'adversité, tu peux faire tellement de trucs. C'est bien simple, je me suis mise à la pâte à sel et à la poterie. Alors le mec avec qui j'étais il y a 7 ans, il sait toujours pas qu'on est plus ensemble, mais j'ai fait une série de petites tasses, mais trop jolies quoi. Pierre, Evelyne, dans cette pièce, vous posez la question de... qu'est-ce qu'on peut dire, quand, à qui? Étonnamment, dans un monde où la parole se libère, il y a des choses qu'on peut plus dire. C'est vrai, parfois, quand tu dis un truc un peu limite, on peut pas toujours appliquer ma technique de la fuite. À une soirée, quand tu félicites une femme qui n'est pas enceinte pour sa grossesse, tu peux pas à chaque fois partir en jetpack du balcon. Ça, c'est une belle gaffe. Après, dans la pièce, c'est un peu plus profond que ça. Il y a des choses qu'il faut pas dire parce qu'elles sont insultantes, tout simplement. Faut plus dire des mots comme tapette, par exemple, quand on parle d'une personne homosexuelle, hein, j'entends. Si c'est pour attraper une souris, pas la peine de dire j'ai mis un bout de gruyère sur l'homme qui aime les hommes sur le sol de la cuisine, sinon perdu temps. Donc, on l'a dit en début d'émission, cette pièce est écrite et mise en scène par Salomé Lelouch, qui est votre fille Evelyne, vous-même qui êtes l'épouse de Pierre. Alors, vous avez rendu ces lettres de noblesse au piston. En termes de circuit court, la planète vous remercie. Et le théâtre aussi. Evelyne, dans la pièce, vous êtes plutôt sans filtre. Vous dites tout ce qui vous passe par la tête, sans mettre les formes. Vous avez bien raison. Stop. Terminez la langue de bois. Leïla, langue de bois. La vanne sur Pinocchio qui fait des cunis. T'as eu raison de me dire que c'était de la merde. Faut oser dire les choses quand on est amis. En fait, moi, j'aime les gens directs, ceux qui minotent pas avec la vérité, car finalement, ça me rappelle le courage que je n'ai plus.
Wow. Merci. Richard ?
Non. Morgane, qu'on retrouve sur scène du jeudi au samedi à 20h au Théâtre Métropole.
Parfait.
Oh, c'était comme ma mère, tu me mimais.
Sans amour, sans souci, sans problème.
La belle vie et l'amour. Avec ce Love way. De Nat King Cole, ça
et
fait
Pierre
partie de la BO.
Danse.
Mais tu rigoles. Enfin, oui. Moi j'ai pas.
Oh,
il se déchaîne. Et Evelyne aussi.
Ouais.
C'est beaucoup plus péchu avec Evelyne.
Ah bah, oh, c'est agréable encore ça.
Ça bouge. Oh, ouais, parce que
je suis dans le camp d'Evelyne.
Aucun filtre.
C'est fini, on est mort. Les bonnes femmes ont pris le pouvoir, on est mort. On est foutu.
Réjouissez-vous, ça va vous faire des vacances.
Oui, c'est ça.
Ça va vous faire des vacances, Pierre. Exercez le pouvoir, c'est toujours fatigant. Laissez-le nous, on s'en occupe.
Oui, mais est-ce qu'on pourra revenir?
Bien sûr. En tout cas, l'un des deux peut encore se déhancher. On ne dira pas à qui. Allez voir la pièce et vous verrez.
C'est médical comme terme.
Sur la chorégraphie, celui ou celle qui assure le plus. Elle vous fait dire, Salomé, des horreurs, y compris sur la situation d'être une femme entretenue, ce qui est une violence inouïe, encore une fois. Et vous avez dit dans une interview, c'est vrai, je me suis sacrifiée.
Oui, alors non, ça c'est une grosse bourde en fait, j'ai jamais dit ça.
Ah bon, mais
c'est dans la pièce.
Ouais.
Dans la pièce, en fait, oui. Je dis je me suis sacrifiée.
Bon.
Mais ça a été.
Ça a été repris. Exactement.
Parce qu'on disait, on faisait la pièce à une émission et ça a été. Mais jamais je me serais sacrifiée pour un garçon. Jamais. Pour un enfant.
Mes
oui,
enfants, je ne vais pas rester plus longtemps.
Si je restais
laissé entre vous.
Bah, c'est une belle preuve d'amour de ne pas se sacrifier pour l'autre.
Mais bien comment, sûr.
Finalement.
Mais non, mais il y a toute la scène que l'on peut imaginer de. Cette nuance de l'homme au restaurant qui paye la note du restaurant, qui se précipite sur la note du restaurant ou qu'il la prend.
Mais c'est Pierre, ça c'est Pierre. Il a tout le temps fait ça, donc c'est lui en fait, c'est lui.
Ça, c'est le point de départ qui est vrai.
Ah, c'est vrai.
Oui. Et oui, ensuite, oui. Extrapolé, ça devient... oui, en même temps, tu n'a pas voulu payer. Donc, si je prends la note, c'est parce que tu ne payes pas. Le résultat est le même, finalement.
Oui.
Mais je pourrais payer, oui, mais tu ne le fais pas.
Comme par hasard.
Non, oui, non, c'est vrai que ça c'est moi. Mais c'est parce que j'ai été élevé comme ça, parce que moi, j'ai vu mon père faire ça toute sa vie, alors qu'il n'avait pas de rond. Et il est tout le temps, il avait peur qu'on le prenne pour un radin. Mmh. Et moi, c'est exactement la même chose. Parce que j'ai quand même un certain nombre de copains ou d'amis, trucs comme ça, qui souvent mettent un temps fou, un temps de dingue. Je dis, quelle heure il est ? On est arrivé là, ça fait quand même 40 minutes qu'on a fini de bouffer, il y a quelqu'un qui va payer. Ouais. Bon, c'est moi, parce que là, sinon, on ne va pas en sortir. Et puis, au moment où tu as payé, tu as fait le chèque, tu as fait le truc comme ça.
Ah ben non,
tout
pourquoi t'as payé ?
Alors, dis donc,
c'est exactement ça. Pourquoi t'as payé ?
Ah, je pensais pas qu'on parlerait aussi vite de François Berléand, mais puisque vous en parlez...
Non. Oh non, il est pas radin.
Il a plein d'autres défauts, mais il est pas radin.
Est-ce que vous montez dans les tours?
Non, mais
c'est une vanne récurrente dans cette émission de dire du mal de François Berléand.
C'est pour ça.
On monte dans les tours, oui.
Vous ne savez pas rester calme, Evelyne?
Non. Ah non, je monte assez vite, mais je descends vite, hein. Mais je monte vite. Ouais.
Pour tout et n'importe quoi, ou sur des sujets plus sensibles que d'autres.
Non, sur des sujets, oui, non, mais Mais je redescends vite.
Mais par exemple, est-ce que Salomé, lorsqu'elle vous a fait lire la pièce d'abord, est-ce que vous avez eu tous les deux la même version de la pièce à lire, ou est-ce qu'elle a commencé par vous ?
Non, l'œil ensemble.
Ensemble, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a, sans dire lesquels, est-ce qu'il y a des scénettes, puisqu'il s'agit encore une fois de scénettes, ou des sujets sur lesquels vous avez dit, non, là, quand même pas ?
Bah, il y en a eu un ou deux qui ne nous semblaient pas aussi performants que les autres.
En termes d'humour ?
Oui, c'était bon,
moins fort.
C'était moins fort. Mmh, il y avait moins de causticité. C'était plus, oui. Il y avait plus un esprit de sérieux. On s'est dit.
C'était plus un esprit de sérieux plus, que voilà, sur le
donc,
sujet.
Ouais, donc voilà. Finalement, votre réserve a été sur l'efficacité sur scène plus que sur le fond,
oui,
le propos en disant
oui.
on veut pas parler de tel ou tel sujet.
Non, on était d'accord sur le fond. On peut après tout, quand on a le talent de Salomé, on peut probablement parler de tout. Mais là, en l'occurrence, ce qui caractérisait ce qu'on a fini par jouer, qui est vraiment épatant, ne coulait pas dans les veines des choses qu'on a éliminées, parce que c'était simplement devenu trop sérieux. À ce moment-là, bon, ça devient une polémique, encore une fois, qui... Ce qui est, je trouve, enfin bon, pour le jouer tous les soirs, c'est que on peut formidablement s'amuser avec des choses qui sont totalement irrévérencieuses et parfaitement iconoclastes.
Clairement.
Quand c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'on retrouve le fameux esprit de sérieux qui m'exaspère, ça marche pas. Même si le thème choisi, a priori, pourrait être intéressant, mais là, il n'est pas traité comme ça, donc...
Là, ce qui marche, c'est quoi ? C'est que l'amour vient toujours rattraper une situation, ça reste
là,
quand même la force
que,
aussi,
c'est
l'amour.
C'est-à-dire que je crois, enfin...
C'est une formidable déclaration d'amour, cette pièce.
Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que ça parle de tout le monde. À un moment donné, on sent et on voit bien les gens dans la salle. Quand Evelyne dit « Alors je te le demande, qui entretient qui ?» La fameuse scène où ils ne payent pas. Les gens
se regardent.
Comme ça, les gens se regardent et ils applaudissent parce qu'ils sont fous de joie. Et c'est moi qui ai l'air d'un connard.
Bon, ça, voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai bien compris
que j'étais le connard de service. Je comprends.
C'est le rôle, en tout cas, qu'on vous fait endosser là, ou comme quand vous lui rétorquez que c'est une comédienne qui milite pour le droit des femmes.
Oui, bien sûr.
C'est pas qu'elle n'a pas un emploi, mais en fait, voilà.
Non, mais c'est par moment.
Mais c'est ça qui est drôle.
Alors, je tiens à préciser tout de même, parce que sinon, il y a longtemps qu'elle m'aurait largué, que je ne suis pas comme ça.
Non.
Voilà, je ne suis pas comme ça.
Vous avez fêté vos 20 ans de mariage.
Oui, bien sûr.
C'est normal.
C'est pas un psychodrame, la pièce.
Non, c'est 20 ans de mariage.
Non, c'est 10 ans de mariage.
Non, 10 ans de mariage et 36 ans de vie commune.
C'est pas la peine de le dire sur ce ton-là.
Je le dis sur ce ton parce qu'il y en a marre.
Il a battu.
Est-ce que c'est cette pièce ? Alors, Salomé avait déjà écrit pour vous. Là, c'est vous qui lui avez demandé d'écrire une pièce.
Alors,
ça s'est passé en quel sens ?
Alors, elle nous avait écrit une pièce magnifique
sur la tête des enfants.
Oui. Et Pierre et moi, on se trouvait au-dessus du rôle, c'est-à-dire trop vieux pour jouer ce rôle. Et alors, la pièce
était
magnifique.
Surtout moi. Elle aurait pu le faire, mais moi, j'avais plus l'âge du tout. C'est dommage. J'aurais adoré jouer ça, mais bon.
Et donc, on lui a dit, mais c'est tellement bien écrit, mais écris-nous une pièce, parce que vraiment, on a envie de... Mais pour nous, quoi. Et donc, c'est ça...
Pour les vieux. Une pièce pour les vieux.
C'est une commande.
Et ce qui est formidable, c'est que là, la pièce est toute génération. Il y a des gens qui vont revenir avec les gosses maintenant.
La pièce de quelqu'un qui prend un club à faire G7 et pas un Uber.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
Les Uber, c'est pour les gosses, les G7, c'est pour les vieux, mais ça marche. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de messages comme ça, j'allais dire subliminaux, non, mais que l'on peut s'approprier aussi, sans forcément rentrer dans votre intimité de couple. Et ça renvoie une image que l'on peut avoir.
En tout cas, on l'a entendu. On l'a déjà, même si c'est pas perso, on l'a déjà entendu dire.
Oui, ouais. Oui. Puis sur les trottinettes, encore une fois, sur le regard que chacun porte au sein du couple. Et finalement, c'est pour ça que je parle d'une histoire d'amour, d'une formidable histoire d'amour. C'est que s'il s'aime, il s'aime aussi pour ses défauts-là. C'est-à-dire, le côté sans filtre doit finalement plaire.
Le séduire, évidemment. Ça le séduit.
Évidemment. À tel point que je me demande d'ailleurs si cette pièce ne pourrait pas être interprétée dans plusieurs années. Par d'autres couples à la ville comme à la scène,
ou même tourner avec d'autres comédiens.
Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. La vedette de la pièce, honnêtement,
c'est la pièce.
Ouais, c'est un bon signe. Moi, j'ai déjà eu cette sensation-là avec un certain nombre de pièces, mais en particulier, par exemple, avec Art de Yasmina Reza, qui a fait le tour du monde, et comme ça, je l'ai vu d'ailleurs dans plusieurs versions. À partir du moment où les acteurs sont au niveau de la pièce, Moi, il n'y a aucun problème.
Moi, j'irais plus loin. Même quand ils ne sont pas au niveau, la pièce reste une bonne pièce.
Non, parce que quand ils sont pas... Autant un grand acteur ne peut pas sauver une mauvaise pièce, autant...
Un mauvais acteur peut couler une pièce, même si elle est bien écrite.
Oui.
Même s'il est bien servi par un rôle.
Enfin, il
ne
peut pas la couler, mais on peut regretter... Enfin, pas un mauvais acteur, ça ne veut rien dire. Une erreur distribution peut... Voilà, on va être... Prenons quelqu'un au hasard. François Berléand. Tout à fait au hasard. Non, mais ça me traverse l'esprit.
Là, ce qui fonctionne aussi, c'est qu'on voit aussi, sur scène un véritable couple. Oui. Et cette complicité-là, on peut la travailler, j'imagine, entre deux comédiens qui ne se connaissent pas. Mais c'est aussi le plaisir de vous voir tous les deux. Et de fantasmer sur vos mauvais côtés dans la vie et vos beaux comptes beaux comptes dans la vie.
J'ai pas de bol. Elle m'aime pas. Je vois bien. Vous pouvez fantasmer sur le côté le connard que vous êtes et la délicieuse femme.
C'est pas que je vous aime. En fait, c'est pas que je vous aime pas, Pierre.
Tais-toi, malheureuse.
C'est pas que je vous aime pas, Pierre. C'est que je préfère Evelyne, tout simplement. Je préfère Evelyne. Et en fait, dans la pièce, on aborde aussi des sujets hyper sérieux. Quand on parle de féminisme, vous entendre votre personnage Evelyne dire, je sais pas, j'ai pas d'avis.
Et, sur le voile.
Sur le voile, par exemple, ou d'autres sujets. Et entendre aussi, tout d'un coup, je suis féministe, mais je vais pouvoir considérer que cette actrice a eu le rôle parce que
elle y est passée. Elle a accouché. Non, mais c'est vrai.
Et
elle
ça soit un peu plus complexe.
Non, voilà. Et pour aller plus loin, je joue avec ce gros porc qui couche avec toutes ses actrices. Tout le monde le sait. Mais moi, je ne risque rien. Donc j'y vais.
Donc je suis à la fois
c'est
dans...
C'est des règlements de compte, quoi.
Oui, aussi. Oui.
Et là, vous pensez à quelqu'un de précis ?
Non.
Non, mais ça pose une question intéressante, c'est-à-dire dans un milieu quel qu'il soit, quand on a connaissance éventuellement des actions d'un homme qui a servi une femme ou qui l'agresse ou qui fait peser sur elle un sentiment qui ne devrait pas exister, quelle est la part de responsabilité de la femme qui ensuite va collaborer éventuellement avec lui, et puis de l'homme, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas en danger qu'il ne doit pas se montrer pour autant solidaire.
Bah oui,
et absolument. Pourtant, dans un couple, on va dire, ben non, je veux pas que tu tournes avec lui parce que potentiellement c'est risqué pour toi. Oui, mais pourquoi toi, tu irais continuer à jouer avec lui quand t'es un homme
Ça le pose le problème, vraiment. Et ça vient naturellement. Et c'est...
Oui, le problème est plus de cautionner finalement quelqu'un qui est un gros porc que de...
Mais qui est un rapport qu'on n'a jamais eu. Hein.
Ouais.
Moi, je n'ai jamais dit à Evelyne, je ne veux pas que tu tournes...
Un tel ou un tel.
Oui, parce que ça, on en connaît, des acteurs ou des actrices comme ça. Je ne veux pas que tu tournes avec machine ou machin. Je ne veux pas que tu tournes avec truc ou machin. Ça ne nous a jamais traversé l'esprit. Hein. On fait un métier qui est très particulier. Alors après, on n'est pas obligé de coucher avec, ça, c'est autre chose.
On n'a pas décidé
de ce qu'elle doit jouer ou tourner. Ouais. Mais alors, et de faire ça.
Et si vous avez connaissance aussi
comment
d'un...
Salomé...
c'est autre chose.
Alors,
voilà.
Comment Salomé arrive à la naissance de cet échange à ce moment-là? C'était parce qu'elle voulait évoquer
y a un côté.
Hashtag MeToo, le balance ton porc.
Oui, bien sûr.
C'est ça?
Oui, bien sûr.
C'est la solidarité.
Donc elle vous fait dire des choses qu'elle pense pas forcément
de la même manière. Ouais. Voilà, mais c'est pour ça que la pièce n'est pas un psychodrame.
Ouais.
C'est pas venez voir comment on vit, non. Venez voir comment vous vivez.
Ton historique, c'est très drôle, les gens sont parce que tu sais pas le faire ton historique, c'est pour ça que tu sais pas l'effacer.
Ça réagit immédiatement.
Parce qu'il
y en a plein qui s'identifient à
mais
ça.
Voilà.
Aussi. Ah, on peut donc effacer l'historique d'un ordinateur.
Tu l'effaces pas parce que tu sais pas le faire.
C'est
les gens sont morts.
C'est extrêmement drôle.
Non, mais ce qui est bien, c'est que
et de dire parce que c'est qu'une femme dise oui, je regarde des pornos, c'est pas non plus la première chose à laquelle on pense. C'est quelque chose de réservé entre guillemets aux hommes, mais pas aux femmes.
Voilà. Et d'un seul coup, c'est inversé.
La masturbation, c'est du côté des garçons, et le plaisir féminin, non, on n'en parle pas.
Ouais. Heureusement, ça commence à se débloquer tout ça. On en parle vraiment de plus en plus. Et c'est bien qu'on aille dans ce sens-là, quoi, vraiment.
Est-ce que cette pièce où certaines personnes peuvent ressortir du théâtre de la Renaissance en se disant j'en ai appris sur le couple Evelyne et Pierre, est-ce que à l'inverse vous avez appris des choses sur Salomé? Est-ce que ça révèle quelque chose que vous connaissiez peut-être déjà, mais qui éclot comme ça au-delà du talent d'écriture?
Alors moi, je la connais par cœur. Moi, j'étais juste impressionnée aussi par le travail qu'on a fait ensemble sur ce texte, quoi. Ça a donné un autre sentiment de travail entre nous, parce que j'avais jamais travaillé avec elle, en fait. Donc, c'est surtout ça, moi, qui m'a enrichie énormément. vraiment, j'ai été bluffée par elle. Quoi,
et Pierre, vous avez appris quelque chose de Salomé ?
Non, j'ai eu la confirmation de la personnalité de Salomé, que je connais moi aussi depuis 35 ans, et que j'ai vu évoluer au fil des ans, de cette énergie qu'elle peut avoir, c'est familier chez moi, la véhémence. Hein. Bon, moi aussi, je suis un homme véhément, mais elle est très véhémente et elle peut être d'une férocité. Férocité au bon sens du terme, voilà, pas au mauvais, hein, bien entendu. Non, mais moi, j'ai toujours aimé Salomé, je l'ai toujours appelé. Pour moi, Salomé, c'est très étrange la sensation que j'ai avec cet enfant, parce que cet enfant, oui, c'est un enfant. Elle a deux visages pour moi maintenant. C'est un petit enfant. Je suis rentré dans sa vie, elle avait 3 ans. C'était une sorte de petit monstre magnifique et que j'ai appelé Abdallah, le Abdallah de Tintin. Voilà. Parce que c'était Abdallah. Bon, c'est un petit monstre divin. On serait fait couper la tête pour elle. Bon, ben, peu importe. Voilà. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu cette chance de pouvoir lui tenir la main et de l'emmener en partie dans un premier morceau de sa vie. Et puis maintenant, c'est elle qui prend la mienne et qui m'emmène dans un morceau de la sienne. Donc ça me bouleverse profondément. C'est très étrange. Il y a le petit enfant, puis quand je rentre en scène, il y a l'auteur, il y a la jeune femme qui a 38 ans, donc qui est une jeune femme mûre, et qui a une maturité et un talent d'auteur à la fin, invraisemblable, parce que c'est absolument magnifique. Donc je n'ai pas appris, j'ai découvert il y a longtemps déjà qu'elle savait écrire.
Ah, vous êtes un
avec
mec
énormément
bien.
De avec énormément de fautes d'orthographe, ça m'a
dit. Bim, il fallait.
Mais c'est délicieux, c'est merveilleux de savoir qu'elle fait encore des fautes d'orthographe quand elle est capable d'écrire aussi bien. C'est génial.
Enfant.
On s'en fout, c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Donc ça n'a fait que confirmer ce que je pense d'elle.
Fallait pas le dire.
Fallait pas le dire.
C'est ma manière d'être tendre avec elle. Je l'admire infiniment et je l'aime profondément.
Cette pièce est formidable. La mise en scène est de Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenay. Elles ont travaillé
très précieuse.
Ensemble.
Très précieuse. Quelqu'un de magnifique aussi. Très précieuse. Qui nous a aidé beaucoup.
Qui est aussi une actrice, il faut le préciser.
Oui, une très belle actrice.
En plus de
mettre
en scène. La pièce est signée Salomé Lelouch, portée par Evelyne Wiggs et Pierre Arditi. Entre autres, il y a Pascal Arnaud qui
est formidable, qui fait le plombier.
Madame Hitbol. Tout ça au théâtre de la Renaissance, à voir absolument avant le 2 janvier, c'est un pur bonheur. Voici Monsieur Guillermo Guise, on passe du bonheur à Guillermo Guise.
Ah. Vous allez passer de Pierre Arditi et venir à moi, parce que je suis à la Renaissance juste après eux.
Oui. C'est vrai ?
Ouais, à partir du 4 janvier. Très
bien. Wow.
Voilà. Bon, je vous ai vu faire l'allemande là. Je vous ai vu faire l'allemande. J'étais là.
On peut parler mieux, mais pas plus vite.
Bon, ça va les amigos.
Il faut juste expliquer ce qu'est une allemande. Il y a l'italienne au théâtre et il y a l'allemande. Explique.
Mais je savais pas non plus. En fait, c'est l'allemande. C'est quand vous faites les déplacements, c'est ça.
Oui.
Exactement.
Et je vous ai vu parce que j'étais en train de visiter le truc et vous étiez en train de faire ça.
Parce que là, c'est vous qui êtes passé.
Exactement.
Oui. Je me souviens. Oui, ça nous a bien fait chier.
Vous étiez habillé en blanc, je me rappelle.
Oui. Très bien.
Bon, je commence avec mon truc. Oui. Alors, lundi passé, rentrant de Bruxelles, j'étais tranquillement assis dans le Thalys quand tout à coup.
Mais quoi ?
Ça commence fort, hein. Vous êtes pas pendu à mes lèvres, vous êtes pas en train de vous dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, je devrais faire des contes pour enfants, moi, non ? Et la princesse lui mine droite en lui disant, c'est la dernière fois que tu m'appelles bébé. Bref, j'étais dans le Thalys, vers Bruxelles, normal, j'avais mes écouteurs et tout, tu vois, je faisais mes mots fléchés. Mmh. Je vous ai dit, je deviens fort, hein. Là, je suis aux portes de l'équipe nationale, vraiment, c'est bientôt France-Belgique en mots fléchés, je suis déter. Enfin, chez vous, le sélectionneur, c'est Gabriel Matzneff en plus, tu vois, donc j'ai vraiment envie de comprendre. Mon voisin de gauche dans le Thalys, il est juste en biais et à un moment, il se lève en trombe. Et il démarre, mais vraiment comme un boulet de canon, vers une personne qui est assise vraiment 2 sièges devant moi, quoi. Et là, je me dis, c'est un malaise cardiaque ou une crise d'épilepsie. Donc là, ni une ni deux, je retourne à mes mots fléchés, quoi. Dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai zéro notion de secourisme. Si c'est moi qui dois te faire un massage cardiaque, frère, c'est plié, t'es dead, hein. Franchement, moi, si tu vois la lumière blanche au bout d'un tunnel, mon conseil, continue à marcher et commande une pina colada, hein, parce que tu vas jamais revenir. Hein. En plus, il me rendait fou, ce mot fléché. Il a la tête dans le bassin, en 5 lettres. Il s'avère que c'était fémur. Moi, j'étais parti sur Florent Manoudou, tu vois, vraiment, mais. Oh. Ah bah, si t'es pas concentré à 100%. Et donc là, ça commence à crier, quoi. Je vois le mec, il est vraiment vénère. Et il hurle, il fait, vous avez pas le droit de me prendre en photo. Vous avez pas le droit de me prendre en photo comme ça. Et je me dis, Nagui, c'est toi? Vraiment? Nagui, j'ai déjà vu dire ça à des gens. Vous avez pas le droit de prendre en photo pendant un shooting. Vraiment, le photographe était là, mais c'est vous qui m'avez engagé. Et Nagui, oui, je sais, désolé, mais ça me rend si grognon cette cocaïne. Mais c'est vrai que, mais bon, avec ce qu'ils disent, je comprends la situation. En fait, je comprends que le mec avait enlevé son masque. Il avait enlevé son masque un peu longtemps pour boire, et la vieille dame l'avait pris en photo, quoi. Vraiment. Et donc ça peut arriver. Parfois, t'es nostalgique de la Gestapo. Tu vois, en 41, t'as eu un crush, il s'appelait Helmut. Tu t'es pris au jeu, quoi. C'est comme c'est vite. Regardez Daniel avec Marion Maréchal. Tu vois, il y a pas si longtemps, il avait rien contre les Arabes. Mais l'amour, hein. L'amour.
Ouais, l'amour.
Et là, le mec fait, ça va pas en rester là. Il dit, ça va partir au pénal. Et dans ma tête, je me dis, ça va partir au pénal, t'es sûr? À moins que tu sois vraiment en colloque avec Éric Dupond-Moretti, ça va partir nulle part, tu vois. Il s'est dit, elle m'a pris en photo, ça va être le procès de Nuremberg. Et en même temps, elle s'est dit, je vais le dénoncer, il va prendre perpète. Je crois qu'ils sont tous les deux surévalués leur impact sur la justice de France. Mais ça monte encore dans les tours. Et le mec, il pète un plomb, il fait, effacez cette photo tout de suite, donnez-moi ce téléphone. Et c'est à ce moment-là que je me dis, imagine, elle prenait juste un selfie, tu vois, vraiment. Et que la vieille lui fait, frère, j'étais en train de snapper, là, vraiment, tes mains, c'est un filtre chien, vraiment, tu vois. Ah bah, il aurait été bien contrit. Et donc là, ah bah oui. Et donc, il prend le téléphone, il revient à sa place, mais il est vraiment vénère, quoi. Il y a un énorme flottement dans le wagon. On sent tous qu'il faut que quelqu'un intervienne. Moi, j'ai l'impression d'être le 11 septembre dans le vol 93, là, tu vois. Genre, j'envoie un SMS à ma sœur, j'ai en mode, si je m'en sors pas, dis à Laurence Bloch qu'elle me donne encore une chronique, quand même, tu vois, parce que j'étais pas assis juste à côté, mais j'étais proche du mec. Et personne ne bouge, quoi. J'ai dit, bah voilà, j'ai bientôt 40 ans, je suis un adulte, j'ai l'âge d'intervenir. J'interviens, quoi, problème. Moi, je savais pas du tout lequel des deux avait raison, tu vois. La vieille dame, elle avait pas le droit à prendre en photo pour le dénoncer, mais lui, il avait pas crié aussi fort sur une vieille, quoi. Moi, j'ai jamais crié sur une vieille, sauf une fois, Leïla, parce qu'elle avait vu dans mon yop, en plein Covid. J'étais là, vas-y, achète-toi ton propre yop, hein. Moi, j'avais plus touché après, au-delà de la pandémie. Moi, je sais où Leïla le met sa bouche, tu vois. T'as pas envie que ce soit dans ton micro. Donc, je me dis, j'interviens, quoi, et je me lance et je fais, monsieur. Mais quand je dis monsieur, j'ai aucune idée de ce que je vais dire derrière, tu vois. Je dis, calmez-vous, il y a des gens. Non, mais j'étais là, il y a des gens. C'est le seul truc que j'ai trouvé à dire. Je vais le tenter dans un concours d'éloquence, tu vois. Pourquoi c'est pas bien de coloniser la Palestine? Il y a des gens. Vraiment. Et là, le mec vénère, il fait quoi? Vous auriez envie qu'on vous prenne en photo, vous? Comme ça? Et là, ni une ni deux, je retourne à ma main au fléché, quoi. T'es sûr que c'est pas François Laurent Delu? Donc voilà, ce que je veux dire, qu'il y avait dans le train, il y avait quelqu'un vraiment, un écrivain vraiment très célèbre dans le train, quoi. Il avait pas de masque du tout. Je l'ai pris en photo. Je me dis, ça va partir en pénal, ça, franchement. Bon, allez, bonne émission, les amis.
Merci, Guillermo.
Et Guillermo, on se retrouve sur scène à Marseille, Clermont-Ferrand, à Sérignan aussi, puis à la Renaissance
en
à partir du 4 janvier.
En attendant la Renaissance à partir du 4 janvier, où Evelyn Bouygues et Pierre Arditi viendront en blanc pendant tes répétitions. troubler ton travail, par principe.
Voilà.
Uniquement parce que. Caroline Veil est psychanalyste et psychologue clinicienne. Elle viendra tout à l'heure, justement, répondre à cette question. Y a-t-il des sujets qui fâchent, des choses qu'il ne faut pas dire, que ce soit en couple ou en société? Ne serait-ce que par diplomatie ou pour ne pas blesser les autres. La musique est très présente dans la pièce. Fallait pas le dire. Au théâtre de la Renaissance, il y a
les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
C'est-à-dire qu'immédiatement il y a le geste qui revient.
Faire une virée à deux. Sur les chemins.
Et quel virée, ouais, t'as raison.
Dans ton automobile. Non, n'oublie
pas ça. C'est une autre version, mais il y a cette chanson aussi. Et puis, il faut pas oublier.
Oh, la belle vie.
Ça vous va tellement bien, cette musique.
Sans amour. Merveilleux. Sans soucis.
Elle est chouette, cette chanson. Formidable. Fallait pas le dire.
Il pacha de Jean Constantin, vous l'avez pas mis.
Si, mais je vais me gêner.
Ah. Ça, c'est culte pour moi. Culte.
C'est vrai que vous le dansez en plus.
Moi je pense que le danse, j'adore Constantin.
C'est vrai?
Ah oui.
La musique dans la vie d'Evelyne et de Pierre en 67-68. Vous écoutiez Evelyne Bouygues.
My funny Valentine.
Ça c'était l'histoire de folie. Hein.
Ouais.
Sweet
Chet Baker.
Et c'est la découverte du théâtre pour vous, Evelyne, à cette période-là. Je crois que c'était un surveillant
du lycée,
qui vous a emmené voir.
Qui m'a emmené au théâtre. Et voilà, ça a été un choc.
C'est quoi le choc? En quoi c'est un choc?
Bah, c'est parce que j'étais jamais allée au théâtre, en fait. Ouais. J'étais jamais allée au théâtre de ma vie. Et il passait une audition, et c'était à la Comédie Française. J'étais évidemment jamais allée à la Comédie Française. Donc, je suis rentrée au Français et tout ça. Puis après, j'ai fait 2 mois d'audition, et finalement, j'ai été prise et j'étais jamais allée au théâtre de ma vie. Donc, j'habitais la banlieue.
Ouais.
Donc, mes parents venaient me chercher au train le soir, ou après, je dormais, j'avais une doublure. C'était un truc de fou. J'étais à l'école, quoi. J'avais 15 ans.
Vos parents vous ont toujours encouragé.
Ils ont été géniaux. Ouais. Ils ont été géniaux avec moi. Ouais, vraiment. Puis la Comédie Française, quand même. Ouais. Donc c'était pour eux, c'était. Donc c'est le début.
Et il y avait aussi un épisode que vous racontez dans les interviews, une petite tendance à la kleptomanie.
Oh. Bah oui.
Et il a un petit filtre.
Bah oui, c'est sans filtre. Je le fais plus. Ouais, on en parlait. Ouais. C'était avant. Hein,
et là, ça,
avant.
Ça se
en fait, ça a commencé très tôt. Donc, comme quoi, il y a pas de. Mes parents sont vraiment des gens qui m'ont très bien élevée, vraiment. Et comme mon père allait me chercher les protège-caillets, les trucs, je commençais à piquer tous les trucs à la boulangerie. Je piquais les bonbons. Ça a commencé, puis ça s'est développé, quoi. Donc, c'était un truc qui était irraisonné. Je manquais de rien.
Mais parce qu'il y avait l'excitation de voler.
L'excitation de voler. Puis d'avoir le truc en main.
L'excitation de se faire gauler, quoi. De dire, il y a un moment où.
Ah ouais, ouais. Non, mais c'est allé loin. Hein. J'allais dans les magasins, c'est allé loin quand même.
Et comment vous en sortiez?
Alors.
Vous avez ce.
Oui, c'est ça. Ouais. Et ben c'est parce qu'en fait, je devais être déjà actrice parce que ça m'a pris très tôt. Et une fois, je me suis fait gauler. Vraiment, c'était une fois où ils commençaient à mettre les trucs. Et le mec. C'est ça. Et j'ai éclaté en larmes.
La technologie.
J'ai éclaté en larmes. Je dis, monsieur, je vous en supplie, monsieur, je vous en supplie. Et tout me dit, alors vraiment, parce qu'on voit bien que c'est la première fois que tu le fais, en fait, mademoiselle, c'est la première fois et je suis passée comme ça. Mais autrement, voilà.
Et vous l'avez avoué sur le tard à vos parents?
Je suis pas sûre que je leur ai dit. Je leur ai dit. Je crois pas.
Il écoute ton père, là, il écoute.
Je crois pas. Il écoute papa, tu écoutes, hein. Je pense voilà. Mais je pense que je lui ai dit pour les protège-caillets. Ouais. Je lui ai dit parce que c'était pas très grave. Je lui ai pas dit pour le reste. Mais je l'ai dit à ma fille. Et j'ai fait, ma fille qui était, parce qu'elle est pas du tout comme ça, qui était outrée. Maman! Maman, comment tu peux faire ça? Je dis, mais je le fais plus, chérie.
Oui, mais à quel moment ça s'arrête?
Tard.
La semaine dernière.
Ah, c'est tard. Non, en fait.
Vous l'avez connu à cette période?
Non.
Moi, ça fait très longtemps.
Je continuais pas de piquer.
Non, mais
avec
je vais
toi,
vous
Pierrot.
Raconter une petite histoire. On a 2 minutes. Hein. Oui. Alors, on allait souvent chez Drouan. Manger comme ça. Et chez Drouan, il y a toute une série de portraits comme ça, de gens connus, comme ça. Et donc, à l'époque, j'avais une grande admiration pour Sacha Guitry, que j'ai beaucoup joué, des trucs comme ça. Et il y avait un portrait de Sacha Guitry, que je trouvais formidable. Un jour, on dîne comme ça, on fait pas attention. Et je me jette compulsivement sur la
note, évidemment.
Je paye, bien entendu. Et je commence à traîner. Et Evelyne me dit, bon, allez, maintenant, on y va parce que... Allez. Je dis, oui, bon, ça va, on n'est pas à des médias. Non, mais on y va. Je dis, bon, d'accord. Alors. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va, mais il faut y aller maintenant. Très bien, j'aime bien. On monte dans le taxi. Et dans le taxi, sous son truc, elle me sort le portrait qu'elle avait
passé. Mais non était.
Je ne sais pas comment elle a fait, je ne l'ai pas vu. Et j'étais assis en face d'elle, comme ça, et le portrait était là. Donc comment elle l'a piqué, je n'en sais rien. Donc j'ai dit, tu n'as pas fait ça, on est honorablement connus chez Drouan, on va plus pouvoir y foutre les pieds. Bon, et puis voilà, mais je l'ai.
Connu ou pas connu,
Ben voilà, il faut l'être, c'est pareil.
Non, maintenant, ils sont au courant que le fameux portrait de Sacha Guitry qui était chez vous, et chez moi, dans mon bureau, voilà.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas rendu?
Un portrait de Sacha Guitry. Non, mais c'était une photo qui était une photo.
Mais très belle photo encadrée.
Que j'ai vue ailleurs. Voilà, mais très joliment encadrée, tout ça.
Mais c'est un vol.
C'est de la complicité.
Oh.
Ah oui. Mais c'est un cadeau, on va pas rendre un cadeau.
C'est du Rossel.
Oh, mais qui sont prudes. Oh, les prudes. C'est comme ça. Moi, je ne pique pas,
Je garde.
Ça me terrorise quand elle faisait ça.
Pierre Arditi, alors c'est pas de la musique que vous avez demandé, vous avez demandé des bruits d'ambiance. Dans cette fin des années 60, l'ambiance était au cheval.
Oui.
Aux chevaux même, parce que là, ils sont plusieurs, c'est plus brutal.
Sinon, il est bizarre.
C'est bien, on a l'impression, ça ressemble un peu à une machine à laver et tout ça. Enfin bon, donc c'est un bruit d'hippodrome. Je l'ai demandé, pourquoi? Parce que en 1967, vous n'étiez pas né, j'ai passé une audition pour tourner un rôle principal dans une émission très célèbre qui s'appelait En votre âme et conscience.
Aux constitutions du tribunal.
Voilà, qui était des grands procès en direct. J'ai fait une des dernières émissions en direct de la télévision française. Et le réalisateur, Jean Berthaud, qui était un excellent réalisateur, est toujours d'ailleurs, heureusement, il est vivant. Et je l'embrasse, Jean, je t'embrasse. Avait été intéressé par moi, mais j'étais encore très jeune, j'avais encore pas fait grand-chose. Et il m'a dit, viens, je vais t'emmener, j'aime bien, t'aimes bien les chevaux. Je dis oui, j'aime bien les chevaux, ben, on va aller à l'hippodrome. Alors je crois que c'était Auteuil ou Chantilly, je sais plus lequel. Okay. Enfin bon, Longchamp, je crois. Et on a passé l'après-midi là, il me dit, ah, on va jouer à ça, truc comme ça. Et je sentais qu'à la dérobée, il m'observait. Il m'observait, moi. Et à la fin de cette journée de cheval, d'hippodrome, il m'a dit, bah écoute, c'est toi qui vas faire le rôle. Voilà. Et j'ai dit, ah bon, c'est toi. Je sais que c'est toi qui dois le faire.
C'était un casting, en fait.
Hein, oui. Il m'a regardé être, vivre. Ouais. Ça s'appelait l'affaire Jobard. Et c'était un type qui était très, très
ça
fragile. Toujours aimable. Toujours aimable. Non, mais c'est ma fête. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et donc, j'ai évidemment, je n'ai jamais oublié ça. D'ailleurs, j'ai retravaillé avec lui. On est très liés. Et, c'était extraordinaire pour moi.
En 77, Evelyne Wyck, vous écoutiez Claude Nougaro. Ah,
tu verras, tu verras.
Très jazz maison finalement.
Hein. Tu verras, tu verras. La vie c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras. Tu verras mon
style. Evelyne, on vous retrouve à cette période-là en 77 sur scène pour On ne badine pas avec l'amour avec ouais. Isabelle Huppert. Mise en scène par Caroline Huppert au Théâtre des Bouffes du Nord. Mm-hmm. Et vous vous dites à ce moment-là que vous êtes en train de gâcher votre vie.
Exact.
Pourquoi?
Et que c'est là, c'est parce qu'en fait, j'avais commencé donc à la Comédie Française, j'avais des castings, j'y allais pas parce que j'étais avec un mec qui était hyper jaloux et qui était, j'étais tombée amoureuse de ce mec et il voulait pas que j'aille aux auditions. Mmh. Donc j'avais des auditions avec Sautet et tout ça, j'y allais pas.
Et donc ça revient à ce qu'on voit dans la pièce, fallait pas le dire, c'est-à-dire la suspicion du mari, du regard de l'autre et du désir entre un metteur en scène et l'actrice.
Voilà, donc il était hyper jaloux, puis je me suis dit bon, c'est peut-être pas, voilà, puis c'était pas, j'avais envie mais c'était pas à ce point-là, autrement je me serais pas laissée avoir. Et puis je travaille avec Isabelle Huppert qui était en pleine bourre, elle allait faire la dentelière à Cannes, juste après elle partait à Cannes et on commençait à parler d'elle comme ça. Et puis avec Isabelle on a le même âge. Donc je la voyais comme ça, puis je me suis dit, mais en fait, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fous rien, en fait, tu glandes. Et c'était une révélation de voir Isabelle comme ça, qui commençait, voilà. Puis je savais, j'avais confiance en elle qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue, et moi qui étais à la ramasse, quoi. Et à partir de ce moment-là, je lui dis, ben non, tu vas faire autrement, quoi. Donc c'était un déclic.
Ouais. Ouais. Et juste par le passé, un tout petit peu, vous racontez que vous auriez pu être une voyou.
Bah oui, parce que je fréquentais ces gens-là à l'époque, c'est-à-dire, c'est pour ça, c'était des voyous, et c'était facile, les vols, il y a une filiation quand même, les vols, les voyous.
Ouais, et une spirale même, à un moment on se dit, ok, on peut tomber, ouais, c'est vrai, on peut tomber plus bas.
Oui, sauf que j'ai fréquenté après des auteurs, j'ai fréquenté des gens intelligents, des metteurs en scène, brillants, des acteurs, et donc voilà, mais au début, si on n'a pas la chance de rencontrer des gens... Voilà, on peut tomber.
Mais c'est une période où il valait mieux pas vous rencontrer non plus. Pierre Arditi, 76-77, vous étiez pas non plus moralement en forme, sortiez d'un chagrin d'amour et vous étiez dans le doute de votre métier. Je me souviens avoir produit une émission de Philippe Labreau où face à lui, vous avez avoué, reconnu, pensé mettre fin à vos jours à ce moment-là.
Oui.
C'est un coup de fil qui vous propose un rôle qui vous en a empêché en un soir.
L'acte, je l'ai fait, mais c'était l'heure n'était pas venue. Donc, comme par hasard, comme tous les actes manqués, c'est un acte réussi. Et ce qu'on m'a proposé quelques jours après, c'est effectivement de jouer Rosencrantz et Guildenstern, son mort de Tom Stoppard, monté par un ami, il s'appelle Jean-François Prévan. La pièce avait été montée par Claude Régis, avec une distribution exceptionnelle. Il y avait tout ce que le théâtre français compte de têtes couronnées, Fresson, Lonsdale, Delphine Seyrig, Rochefort, enfin tout le monde.
Et c'était un moment où vous ne croyez plus en vous? C'est-à-dire vous aviez perdu
la foi?
Non, je
croyais. Non, oui, je ne sais pas que je ne croyais plus en moi, c'est que j'étais terrassé par une douleur d'amour, ce qui peut arriver dans la vie. Mmh. Voilà. Et donc j'ai décidé que c'était pas la peine de continuer. Voilà. Et puis ça n'a pas eu lieu. Et quelques jours plus tard, on m'a proposé ça, effectivement, et ça m'a sorti la tête de l'eau. Et non seulement ça m'a sorti la tête de l'eau, mais ça a été le démarrage...
Une renaissance
Ou une naissance, plutôt.
Carrément.
Pas une renaissance, oui. Une naissance à ce que j'avais choisi de faire dans la vie, où tout d'un coup, c'est un peu long à expliquer, mais cette douleur s'est mise comme un calque sur la douleur du personnage. Et j'ai enfin compris ce que Tania Balachova avait essayé de m'expliquer une bonne quinzaine d'années avant, c'est-à-dire de se servir de soi pour incarner un autre dont apparemment on ignorerait tout et qui en fait est un cousin germain. Donc ça a été une naissance, j'ai enfin compris à 32 ans ou 33 ans ce qu'il fallait faire pour jouer.
Et pour en arriver à, après cette naissance, à la renaissance au théâtre de ce nom, fallait pas le dire, la pièce écrite par Salomé Lelouch. J'enchaîne comme je peux.
Vous avez essayé la renaissance, oui, non, alors tiens, la renaissance.
Je fais ce que je peux. Magnifique. Il fallait que je me sorte de...
Et ce masque en cache-nez vous va extrêmement bien, je vous le dis.
Caroline Veil est psychanalyste et psychologue clinicienne. Merci de venir, comme d'habitude, à ce micro. Vous savez, vous êtes toujours la bienvenue. Vous sortez le 22 octobre prochain un roman sur la rencontre amoureuse Jules et Julie, histoire double, chez Anne Carrière. Nous parlons des sujets qui fâchent dans cette pièce. D'abord, est-ce qu'il y a est-ce qu'un sujet fâche en fonction de l'endroit où on se trouve ou le sujet fâche par nature ?
Le sujet ne fâche...
Ça dépend du contexte ou...
Ça peut dépendre du contexte, bien sûr, mais le sujet va fâcher s'il nous engage émotionnellement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours une image de soi à défendre, une personnalité va se constituer de traits de caractère, de valeurs auxquelles on adhère, de convictions, de morale, d'éthique. Voilà. Et les sujets qui fâchent sont ceux qui portent atteinte à l'image de soi, qui est toujours la meilleure possible qu'on veut donner. Quand on se sent impliqué, à ce moment-là, oui, ça peut être un sujet qui fâche.
Est-ce qu'il y a quand même une nuance entre le sujet qui fâche dans un couple, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'intimité, on révèle des choses sur l'un ou sur l'autre, sujette à moquerie peut-être, ou à raillerie, et puis il y a des sujets qui fâchent en société, où on sait très bien que dans un dîner dès l'instant où il y a plus de 5 ou 6 potes, si on part sur la politique ou sur des grands débats comme ça, ça peut partir en sucette assez rapidement parce que tout le monde ne sera pas d'accord l'amitié ou la camaraderie peut être mise en danger.
Oui, vous avez raison.
C'est pas
mais
le même
c'est
genre
toujours...
de sujet qui fâche.
C'est pas le même genre de sujet qui fâche. Par exemple, si vous parlez de politique avec des amis, etc., en réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit bien sûr de défendre ses valeurs. Mais derrière, il y a un fond moral, il y a une éthique, ouais. Il y a une philosophie. C'est une partie de votre identité, c'est ce que vous défendez. Donc, si on vous dit...
Je sais, par exemple, si je dîne, ce qui n'arrive jamais, heureusement, avec Pierre Arditi...
Je savais bien que ça allait me tomber dessus,
Faut pas que je parle de corrida, on n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même vision et
voilà,
on ne sortira pas.
Éventuellement, qu'est-ce que deux antagonistes vont dire ? Voilà, tu mets à mal les animaux, ça te dérange pas de te tuer. Chacun est persuadé d'avoir raison et que l'autre a tort. Jusqu'ici tout va bien, on est dans un débat d'opinion et il ne se passe rien. Ça devient compliqué quand on pense il a tort. Mais il n'a pas seulement tort. S'il ne pense pas comme moi, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est donc qu'il me rejette, et c'est donc qu'il me voit comme un ennemi.
Oui,
c'est
dès lors qu'on se compliqué dans l'autre sens, c'est-à-dire je l'aime et en même temps je ne comprends pas que quelqu'un que j'aime ait des
tout à fait, c'est un peu de soi qu'on ne reconnaît plus chez l'autre, et donc on se sent étranger à cette personne-là, et c'est à ce moment-là qu'il y a une dissension, mais c'est toujours une remise en cause sur le plan personnel. C'est-à-dire, soit je n'ai pas grand-chose à voir avec lui ou elle, soit si on ne m'approuve pas et si on ne me va pas dans mon sens, c'est une remise en cause personnelle. C'est peut-être que je ne suis pas assez ci, assez ça, ou ça peut effectivement vite dégénérer. Dans le couple, c'est différent parce que dans le couple, là aussi, vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, mais en réalité, ce dont vous avez peur, c'est aussi d'être démasqué. Est-ce qu'on a un jardin secret ? Est-ce qu'on doit tous dire ?
Est-ce qu'il faut avoir un jardin secret ?
Il vaut mieux avoir un jardin secret. C'est quand même la part de mystère qui va nourrir le désir toujours. Si l'autre sait absolument tout de vous et la transparence absolue, c'est aujourd'hui une exigence, mais c'est une illusion parce que l'autre ne sait jamais tout de vous. Donc on a quand même peur, même sur le plan de l'intimité, d'être jugé, dévalorisé, attaqué et que l'autre, à ce moment-là, ait un pouvoir sur vous.
Caroline Veil, vous devez absolument aller au Théâtre de la Renaissance, vous allez vous régaler, comme tout le monde d'ailleurs. Psychanalyste et psychologue, je rappelle Jules et Julie, histoire double, chez Anne Carrière, le 22 octobre prochain. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler ?
Eh bien, je vais vous parler du fait d'avoir 1000 vies. On a beaucoup dit ça de Bernard Tapie hier, et moi, 1000 vies, c'est bien, mais ça me semble vraiment épuisant, quoi.
On va finir en taule. C'est la bande originale avec les Lacadons, Bonadie, Morgane, Gadelian, Guillermo Guise, Tanguy Passureau, Daniel Morin, et mes invités Evelyne Wiggs et Charles.
Pourquoi il l'appelle Wiggs?
Wiggs.
Je n'existe pas.
J'étais troublé par le baise-main que vous
veniez. C'était beau.
C'est fou.
Ah
oui. C'est beau.
Et alors?
Il n'y a rien.
Pas. Non, je sais pas, vous voulez pas un peu de gel? Non, mais c'est beau. C'est beau, c'est un joli câlin. Un joli câlin. Cette pièce, fallait pas le dire. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses qu'il ne faut pas dire. Même là, tout à l'heure, dans l'émission, vous êtes vraiment... C'est-à-dire que Salomé a vraiment mis le doigt sur quelque chose de précis, c'est-à-dire... Pas des désaccords, mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi
mais t'es pas obligé de dire
t'es
ça.
T'es pas obligé de dire ça.
Ta gueule,
mais
fait.
Même là, encore tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un volume 2, oui, un volume 3, c'est-à-dire que ça peut se compléter.
Oui.
Ce plaisir de jouer cette pièce sous le regard de votre fille, Salomé, j'imagine, est là tous les soirs. Est-ce qu'elle prend des notes? Est-ce qu'elle vous débriefe après? Est-ce qu'elle,
Oui, elle prend des notes, ou elle nous dit.
Elle
nous
vous corrige?
Oui. Ah oui, puis moi j'aime bien, j'en ai besoin parce qu'à chaque fois ça me nourrit vraiment, j'ai besoin de ce qu'elle me dit. Bon, elles sont pas énormes, mais quand même, elle dit, n'oublie pas, il fait ça.
C'est sur quoi? C'est sur des intentions, sur du rythme, sur des ruptures, des silences?
Non, c'est sur des intentions plutôt. Non, le rythme, ça, elle en parle pas. Non, des petites choses à ne pas oublier, quoi. À bien noter dans ma tête que c'est des petites charnières pour des choses, quoi.
Et Pierre, vous me disiez avant l'émission que c'était physiquement, psychologiquement éprouvant, comme pièce.
C'est fatigant.
Mais fatigant dans quel sens?
C'est fatigant pour la tête, parce qu'il faut être très concentré. Pour que ça reste vaporeux, quoi, ou léger, pour que ça vole. Il faut être très très concentré, il faut beaucoup avoir travaillé avant pour ne pas avoir l'air de travailler pendant.
Est-ce que vous amusez toujours à des digressions, à faire du Pierre Arditi? Parce que c'est votre patte aussi. Oh bah oui, alors bon alors. Et puis, on a...
Vous le faites tellement bien.
Mais c'est ma fête.
C'est la meilleure imitation de Pierre Arditi.
Voilà, c'est pas galabreux non plus.
Non mais un petit peu, mais pas beaucoup, un petit peu, oui. Oui, voilà. Par exemple, oui, c'est ça, on peut dire n'importe quoi. Bonjour, je suis un bébé éléphanteau, je me douche avec ma trompe. Ça, c'est pas dans le texte. Et
ça vous plaît?
Ça m'a. Elle m'a dit, oui, c'est bien, garde-le. Ça.
Mais non, mais c'est tellement drôle. Cette pièce est intelligente parce que j'imagine que ça donne, enfin, ça a été le cas pour nous, entre guillemets, en termes de couple, ça donne le cas à débat ensuite. C'est-à-dire qu'on sort de la pièce et on en parle. On en parle en disant bah ouais toi aussi bah toi bah ouais.
Ce qui est bien surtout c'est que c'est générationnel quoi, non? C'est-à-dire qu'il y a les gens de notre âge, il y a les gens de l'âge de Salomé et les gens aussi qui vont amener leurs ados, parce qu'en fait il y a tout le monde, ça parle à tout le monde, et ça on savait pas, en fait on n'y avait pas pensé, on s'est rendu compte, c'était une très bonne surprise.
Fallait pas le dire. Evin Wiggs et Pierre et Pierre Arditiz
Dresde.
Ah, c'est la journée des imitations.
Okay. C'est farandole. Hein.
C'est au théâtre de la Renaissance. Voici Monsieur Tanguy Passion.
Aïe, aïe, aïe.
Hier matin, j'étais dans le train, comme tous les humoristes qui sont en tournée. On se croise à la voiture bar. Ah, ouais, salut Guillermo, t'es à la bière. Mais enfin, il est 8h10. Ah, salut Daniel, tu fais pas de tournée pourtant, tu? Tu es venu boire une bière avec Guillermo? Les troquets de ton quartier ouvrent qu'à 9h, donc tu prends le TGV. Bon, d'accord. Quand soudain, j'ai appris le décès de Bernard Tapie. Un dur à cuire qui s'est battu comme un fou contre un double cancer. Moi, quand j'ai un léger souci de peau, déjà, je me dis, ce point noir est plus fort que toi, renonce. Donc, je suis admiratif. Tapie, je l'ai toujours vu. Le foot, le théâtre, le business. Enfant, je le voyais dans le bébé de show. Il apparaissait en taureau sous le nom de Tapie violent. Jeu de mots pour lequel Jean Roucas n'a toujours pas été condamné. Hein. La justice de ce pays est tellement lente. Ensuite, il a tout fait de l'aérobic à la télé, un duo avec Doc Gynéco, le CV le plus foutraque du monde. S'il était allé à Pôle emploi avec, les 19 salariés de l'agence seraient morts d'une attaque de stress. Et là, sur Twitter, on commençait les hommages. Vous savez, quand une célébrité décède, il y a deux types d'hommages. Ceux qui n'ont jamais croisé la célébrité écrivent RIP plus le nom de la personne, avec une formule comme « Salut l'artiste, là-haut tu vas jouer à la crapette avec Dick Rivers et Simone Veil ». Et ceux qui l'ont croisé et postent une photo d'eux avec la célébrité, parfois 16 mètres derrière. Hein, vous avez Bebel et en arrière-plan un serveur de pizzeria qui fait un V avec les doigts. Le serveur écrit alors « Grand monsieur en 79, il m'a demandé ville pimentée avec l'intensité des plus grands ». Plus tous les sites web qui vendent leur formule. Hier, 7 sur 7, un site d'actu belge a écrit « Tapie 6 vies en une », puis RTL a attitré « Tapie l'homme aux 7 vies hein, ». On gagne très vite une vie au moment de sa mort. Je me suis dit « 7 vies, c'est bien, c'est comme les chats hein, ». Il paraît qu'ils en ont 7, ces cons-là. La première qui passe passe à pioncer, à se lécher le oui-oui, nous semble déjà très très longue. Hein, moi, quand je vois un chat, j'ai toujours envie de crier, mais bouge-toi, fils de félin. Je sais pas si t'es au courant, mais Xavier Bertrand a parlé de remettre la France au travail, et la France, c'est toi. Je te rappelle, tu es un chat de type européen. Et bah, derrière, ils reprennent 6 vies en plus. Les chats, ça ressemble à l'existence de Jean-Pierre Elkabbach, mais sans chemise. Puis, j'ai allumé BFM, et j'ai entendu François-Olivier Gisbert, l'éditorialiste qui ressemble au doc dans Retour vers le futur, en plus foufou, et ami de tapis, dire que ce dernier avait eu une vingtaine de vies. 20 vies, c'est énorme. Hein, même des chats siamois rattachés par la tête en ont donc au maximum 14. Mais là, le Figaro, le journal des gens qui trouvent que Valérie Pécresse a la stature d'un chef d'État, donc essentiellement des drogués, hein, a plié le game, puisqu'ils ont titré Bernard Tapie, l'homme aux 1000 vies est mort. On dit des gens qui ont eu 1000 vies, vous savez, quand ils ont tenté plein de trucs différents, ce qui devrait être normal, car on n'a qu'une vie à part Tapie, donc il y en a de 6 à 1000 selon les sources. Hein, sa vie ressemble aux défilés syndicaux, selon s'ils sont vus par la police, 500 personnes, par les organisateurs, 120 000, ou par le type de la buvette qui a sifflé tous les culs de bouteille, donc 4 millions d'eux. Hein, seulement, la société nous met vite une étiquette, et il faut rester chacun dans ses petites limites. Quand moi, j'ai proposé à Inter cette émission quotidienne sur le bondage, tout de suite, on m'a dit, oui, on n'a pas de budget de lanière de cuir. Hein, enfin, des excuses bidons pour que je reste dans l'humour. Tapie, lui, a tout fait, comme Ségolène Royal. Oh, tiens, je vais au Pôle Nord. Oh, allez hop, la présidentielle. Oh, bah, et le Poitou, hein. Elle a eu la même vie qu'un GPS déréglé. Et c'est ennemi, parce que ce sont des stars. Jamais si un anonyme fait la même chose à son enterrement, quelqu'un dira, Jean-René a tout essayé, le métier de rémouleur, le X amateur, la vente de shit avec son fils, ce petit glacier à la grande mode qu'il a choisi d'ouvrir un 16 janvier hors saison, le 17 il faisait faillite, ça a été n'importe quoi, mais il a eu 1000 vies. Hein. Non, d'une non-célébrité qui tente plein de trucs, on dira, il était paumé ce loser. Mais quand une star fait la même chose à sa mort, elle devient une légende. On dira, c'est super, il a eu 1000 vies Mathieu Delormeau, il a fait touche pas à mon poste, ensuite il a expérimenté le chômage, puis il a refait touche pas à mon poste. Hein. Tapie, il a quand même été chanteur et ministre, enfin c'est rare. Moi j'ai tapé sur Google Jean-Michel Blanquer sur plus R&B hein, pour voir. Bon, ça n'a rien donné. Hein. J'ai trouvé une vidéo en soirée Zouk Love où il se déhanchait nu entre trois filles, mais ça doit être un montage. Enfin, comment pourrait-il être blanc et avoir un sexe noir, je veux dire, hein. Ou alors ce serait une greffe, mais je ne sais pas s'il est possible de se faire remplacer un membre par un autre mieux. Hein. Dans ce cas, je veux le foie du Dalai Lama, un tofu thé vert, tofu thé vert. Enfin, il est comme neuf. Bernard Tapie a tout fait, c'est vrai. Il a été député, ministre, acteur, chanteur. Certains disent l'avoir vu dans le Lac des Cygnes faire des entrechats et on dit qu'il a retenu une franchise de la brioche dorée. Voilà, il a été partout et nulle part à la fois. Tapie, c'est un Xavier Dupont de Ligonnès qui aurait décidé pour sa terrasse de miser sur un soubassement en bois plutôt qu'en Jean. Hier, Emmanuel Macron a déclaré à propos de lui, son énergie, son ambition ont inspiré des générations de Français. C'est sans doute vrai. Hein, mais moi, rien qu'à regarder son parcours, je suis mais claqué. C'est affreux. Je ne vais avoir qu'une vie, hein, remplie de 2-3 chroniques. Enfin, bon, d'accord, 8000. Hein, mais j'ai pas fait de chansons, j'ai pas repris Adidas, j'ai pas l'énergie. Quand il faut refaire les lacets de mes Adidas, j'ai déjà la flemme. Hein, j'ai pas encore été député. Et à l'âge que j'ai, Tapie était ministre. Mais enfin bon, Rimbaud a abandonné la poésie à 20 ans et Jordi la chanson à 4 ans et demi. Donc écoutez, à chacun son parcours, une vie, c'est déjà pas mal. Mais sachez que si vous voulez en avoir 1000, des tas de gens vont dire de vous, Josiane, elle part un peu en live. Alors ne les écoutez pas et vivez.
Merci, Jean-Guy Passo. Je ne peux pas faire autrement que d'évoquer avec vous, Pierre Arditi, en 96, la scène que vous aviez échangée au cinéma avec Bernard Tapie.
Ah oui.
Justement, parce que c'est une scène d'autant plus troublante que vous diagnostiquiez à...
Il lui a annoncé un cancer.
Celui exactement qu'il a emporté.
Oui.
C'est fou. Et
oui,
vous êtes...
C'est-à-dire qu'à l'époque, on se marrait parce que, bon, évidemment, ça n'avait pas... on ne savait pas que ce serait prémonitoire. Bon, voilà.
C'était devant la caméra de Claude Lelouch.
Ouais. Homme-femme mode d'emploi.
Et il y a une scène incroyable de la vie. Vous vous recroisez dans l'avion.
Oui, alors beaucoup plus tard.
Oui. Hein.
Au moment où il est vraiment malade.
Si je me souviens bien, je ne suis pas complètement sûr de ça, mais je suis sûr du souvenir lui-même. Dans un avion qui repart de Marseille pour aller à Paris, je suis installé et je vois passer Bernard. Qui ne m'avait pas vu, qui passe comme ça, je l'appelle, il me dit alors, comment vas-tu ? Il me dit écoute, je ne vais pas très bien, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Il me dit je viens d'apprendre que j'ai un cancer, tu me l'avais dit, ben, je l'ai. Il était vraiment défait, quoi, absolument défait. Alors, moi je l'aimais bien, après on peut discuter de tout, mais bon, voilà. Et je lui dis écoute, merde, alors, enfin écoute, je ne sais pas pourquoi je lui dis ça, si tu as besoin de quelque chose, il n'y a pas besoin de moi. Tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu as mon portable, tu m'appelles, c'est comme ça. Ça l'a bouleversé. Après, dans le bouquin qu'il a écrit, d'ailleurs, il parle de ça. Mmh. Et on s'est croisés très agréablement dans la vie, mais pas plus que ça. On n'était pas des intimes. Et pendant un moment, il voulait refaire du théâtre et il m'a téléphoné plusieurs fois pour me demander si j'avais pas une idée. Et je lui ai dit, écoute, tu devrais relire une pièce de Françoise Dorin, très bonne, qui s'appelle Le sale égoïste, et qui avait été créée par Paul Meurice. Et il m'a dit, ah, c'est une idée, ça, c'est une idée. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, la voix est partie, et il n'a jamais pu le faire. Après, Tapie, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je suis assez âgé pour l'avoir vu faire de la gymnastique avec Véronique et Davina, d'être arrivé en costard croisé et de montrer aux gosses qu'à un moment donné, si on voulait réussir dans la vie, on pouvait y arriver. Le problème était au moins de tenter les choses. Ils disaient, tentez le truc. Si vous cassez la gueule, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Enfin, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu faire appel à la culture de la plainte, qui est très à la mode actuellement. Il y a des gens qui ont de vraies raisons de se plaindre. Il y en a, mais pas tous. Il y en a qui ont tort de se plaindre parce que d'une certaine manière, contrairement à ce qu'ils croient, par exemple, je ne crois pas qu'on vive dans une dictature en France. Je crois qu'on vit dans un pays qui est une véritable démocratie et qui, par rapport à des tas d'autres pays, l'Afghanistan, par exemple, qui est si démocratique, surtout avec les femmes, je pense que on a intérêt à chérir ce pays. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je le chéris et je ne le quitterai pas pour un empire.
Totalement d'accord avec vous. Et puisque vous évoquez l'Afghanistan, demain, nous aurons une émission totalement consacrée aux femmes afghanes, avec une... évidemment un conducteur qui sera chamboulé, mais nous donnerons la parole à plusieurs femmes, et Charlotte de Turckheim évoquera aussi son lien avec ce pays.
Oui, parce que...
J'en prie.
Eh bien, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Je trouve que, alors, Dieu seul sait si la cause des femmes est à défendre, hein, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas un gros porc, mais un féministe. Voilà. Mais là, honnêtement, on ne parle pas assez du sort des femmes afghanes. Alors franchement, il y a des gens qu'on entend partout tout le temps, puis là tout d'un coup c'est le silence, c'est le silence radio. Pourquoi, au nom de quoi?
Alors silence radio, ça ne va pas ici, parce que justement toute la journée de demain sera entièrement consacrée à ce sujet.
C'est une très bonne chose.
France Inter avec France 2 propose The Artist. Et nous arrivons à la deuxième demi-finale. Alors, on parlait des masterclass aussi. Vous avez eu la gentillesse d'accepter une invitation lorsque je produisais des masterclass d'acteurs. Là, c'est Leïla qui présente tous les soirs à 20h sur le canal 14 de la TNT Culture Box des masterclass justement avec ces artistes. Trois ont été d'ailleurs sélectionnés. Vendredi soir,
ils étaient 7, il n'en reste plus que 3 dans les prestations des 3 en fait qui ont gagné leur place pour la suite. Il y a celle de Nicolas qui a beaucoup ému avec une chanson Allô consacrée à sa maman. Performance qui nous a tiré les larmes et qui n'a pas échappé à Jean-Louis Aubert qui était à la tête du jury.
Ça fait disparaître l'intelligence en fait. Quand j'écoute cette chanson, je peux pas analyser. Je la vis avec toi. Et moi, ça m'a rappelé que quand mon papa m'a quitté, ben, j'ai écrit un album et j'ai l'impression qu'il était sur mon épaule à écrire avec moi. Et c'est Maxime Le Forestier qui m'a dit ça. Les plus grandes émotions donnent les plus grandes œuvres. Et voilà, là, tu t'es servi de quelque chose qui t'a traversé. Et heureusement, ça s'est bien terminé. Mais cette chose, elle est indiscutable.
Magnifique Jean-Louis Aubert, je vous le prescris matin, midi et soir pour être remboursé par la sécurité sociale.
On a bien pleuré.
Ouais, à chaque fois, à chaque intervention de Jean-Louis Aubert. Sur scène également, vendredi soir, petite gueule.
Moi je crois au fait, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route c'est une piste de dés, je crois que l'illusion elle est ailleurs. Je crois qu'on peut même tous en être une, être la fée de quelqu'un ou de quelqu'une. Faut juste les voir, c'est ça qui compte. Ce qui fait ce qu'on est, c'est les rencontres. Ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense, ce qui fait ce qu'on rit. Parfois quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a croisé là juste une fois, qui nous a marqué pour la vie, qui le sait pas. Qui fait sa vie, c'est ça une fée, elle est juste passée, ça suffit.
Ce sont des auteurs, compositeurs, interprètes, hein, qui créent.
C'est vachement bien ça.
Une petite gueule qui a remporté un grand succès auprès de la grande Sophie.
Moi je crois que tu as le potentiel d'être la nouvelle Anne Sylvestre de cette époque.
Oh, carrément, wow.
Je suis allée fouiller en fait. Plus je fouillais sur toi, et plus ton univers, tu es très créative aussi. J'ai vu des scènes où avec 3 bouts de ficelle, tu nous embarques. Et voilà, j'ai eu envie de te suivre.
Nicolas, petite gueule. Et pour pas faire de jaloux, le troisième qualifié pour la suite, c'est Joseph Kamel.
Pardon pour ça,
était tous à fleur de peau. Je me rends compte avec le recul qu'en fait tout ce qui a bouleversé, ce sont les pardons, les maladies d'une maman en disant je ne veux pas que tu partes au ciel, ou je crois aux fées avec ces rencontres.
Ouais, c'est que des sujets très très personnels qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Ouais. Et on se retrouve ce soir à 20h.
Alors, qui
pour la suite.
Masterclass 2
MC Solar.
Ah, la classe. Oh, ouais, MC Solar, ça sera sur le canal 14 et The Artist. La deuxième demi-finale, ça sera vendredi soir à 22h40. France 2, France Inter, pour découvrir de nouveaux artistes, auteurs, compositeurs et interprètes, justement dans la chanson Je crois aux fées, Je crois aux rencontres. Et c'est, j'imagine que c'est votre cas aussi, parce que votre métier seul. Être actrice ou acteur, on a besoin de textes, on a besoin de metteurs en scène, on a besoin de partenaires. C'est impossible de vivre ce métier seul.
Ah bah oui, de toute façon, on a d'abord besoin de se nourrir des autres tout le temps, parce qu'autrement, on n'a rien à donner. C'est quand même un échange. On est là pour donner aux autres. Donc, il faut qu'on se nourrisse d'eux. Donc, c'est un échange très profond, en fait.
Est-ce qu'il y a une réplique dans la pièce qui fait rire, mais qui est tellement sincère que ça vous touche encore de la dire?
Ah, bonne question.
Beaucoup de me regardent. Rien, moi c'est à toi qu'on pose la question.
Non, parce que c'est aussi un rapport à chaque fois, donc je parle pas toute seule.
Je sais pas si
rien ne vous a. Alors, blesser, le mot est peut-être un peu fort, mais toucher, bouleverser au point de dire, même sous couvert d'autodérision, ça pique un peu quand même.
Si, ce qui me concerne moi, parce que c'est pas.
Ah, vas-y, bien sûr. Moi, je réfléchis.
Quand il dit, ça fait 30 ans que je me contiens, que je retiens tout ce que je sais, ce que je sens, ce que je pense, faut pas dire ça, faut pas dire comme ça, faut que ça vienne de toi, pas de lui, ceci, cela. Moi, je m'en fous, je vais lui dire, mon père est mort en héros, c'est ce qu'on a décidé, c'est ce que j'ai décidé, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et là, je peux pas, bon, après, ça se finit de manière beaucoup plus drôle, je peux pas m'empêcher de penser à mon propre père. Donc, effectivement,
ça te dévaste,
à mon propre
en fait,
père, ouais. Et à ce que j'étais enfant, qui n'a jamais complètement disparu de ce que je suis.
Et la scène, enfin, personnellement, et pardon Evelyne de le dire, moi, c'est la scène sur la chirurgie esthétique, je dis, mais non.
Elle va pas y aller.
Elle va pas y aller.
Non, mais en plus, Salomé.
C'est pas si évident que ça, pardon, bien
non,
sûr.
Non, mais
si,
Salomé m'a dit, bon, alors, maman, voilà.
Maman.
C'est gonflé.
Maman.
C'est gonflé, c'est une bonne vanne, déjà.
Donc, c'est gonflé. Là, c'est bien. Donc, elle m'a dit, c'est gonflé. Je comprendrais que t'aies pas envie de la porter. Je dis, écoute, la manière dont c'est. D'abord, j'ai pris de l'âge, donc avec tout ça, il y a plein de choses aussi.
De recul.
J'ai plein de recul par rapport à une certaine époque, je pense que j'aurais pas pu le faire. Mais j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et en plus, c'était tellement bien écrit et c'était tellement drôle. Je veux dire, ça aurait été juste pour pas drôle, ça m'aurait pas plu, mais là, c'était très drôle.
C'était pas de la chirurgie. J'ai injecté un truc, puis je l'ai enlevé. En
ouais, non, mais
c'est tellement drôle.
Tu n'as pas fait de lifting.
Vous n'avez pas me refaire la pièce.
Tu as fait le nez. Et tu n'as pas fait
non,
que le nez.
Non, mais c'est très drôle,
mais tout le monde fait le nez.
Tout le monde refait le nez.
C'est la réplique.
C'est épatant.
Non, c'est extrêmement drôle. Au théâtre de la Renaissance, Evelyne Bouygues et Pierre Arditi pour cette pièce, fallait pas le dire, c'est extrêmement drôle. J'imagine une tournée, j'espère. En tout cas,
oui, ils sont en train de la monter là.
Là, c'est jusqu'au 2 janvier.
Oui. Et c'est à 19h. Nagui, c'est à 19h. On va sûrement prolonger, je pense.
Vous insistez sur le 19h, c'est vrai que je l'ai pas
dit. Oui, parce qu'en général, mais là,
c'est un. Il faut accompagner Pierre après, il se couche tôt maintenant.
Non, Pierre enchaîne une autre pièce après.
Non, c'est plus, c'est fini. C'est une autre époque, ça.
C'est vrai.
Non, bon, alors, une fois un jour de relâche comme ça, non. C'est trop compliqué. D'abord, parce que ça brouille les pistes, on ne sait plus très bien. Ils ont plus très bien ce que je joue. Et puis, c'est très fatigant.
Ouais.
Des excuses à présenter, Daniel.
Oh, oui.
Ah. Désolé pour Evelyne Bouygues, Evelyne Bouish, Evelyne Bouxy.
Et toutes les douloureuses tentatives de Nagui pour rappeler notre invité. Finalement, on va réinviter Berléan, c'est plus simple à dire pour l'enfant du Nil. Désolé pour toutes nos auditrices féministes et fans du moderne et progressiste Pierre Arditi qui ont cru entendre.
On est mort, les bonnes femmes ont pris le pouvoir, on est mort.
C'est sûrement une illusion sonore. Jamais Gérard Titi n'aurait dit ça.
On est mort. Les bonnes femmes ont pris le pouvoir. On est mort.
Bah, peut-être que si, au final. Hein. Alors, désolé pour l'alcool, la drogue, les médicaments et tout ce qui se trouve encore ce matin dans le corps de Guillermo Puiz. C'est un désastre. Et encore, je ne parle pas des objets qu'on a vus sur les radios. Désolé, enfin, pour le responsable technique de France Inter qui cherche deux micros, un casque et trois fauteuils, le vigile du parking qui ne sait pas où est passée la Porsche de la directrice de Radio France. Désolé pour Nagui qui cherche partout le portrait de Saddam Hussein qui orne son bureau. Pas de panique, Van à la sortie, c'est Evelyne Bouix. Elle nous a avoué qu'elle était kleptomane, mais il y a longtemps. Ouais, c'était il y a 5 minutes.
Fallait pas le dire, c'est au théâtre de la Renaissance à 19h. Merci Evelyne Bouix. Merci Gardi.
Merci à vous.
Merci Nagui.
Journée spéciale, donc femme afghane demain. Passez une très bonne journée tout de suite et carnet de campagne de Philippe Bertrand.